France Inter.
France Inter, il est 13h!
L'heure du 13-14, Kevin Dufraîche.
Merci Nicolas, bonne journée, à demain et bonjour à tous. Branle-bas de combat de Noël, à la poste, les colis, le courrier, toute la distribution est toujours perturbée. En raison de la cyberattaque en cours depuis hier, nous serons devant un bureau de poste de Lyon. Et avec notre invité spécialiste en cybersécurité, on tentera de comprendre les raisons et les conséquences de cette cyberattaque. Pour ce qui est des services bancaires, c'est rétabli, il n'y a pas eu de vol de données. Un trafic très organisé de protoxyde d'azote lié à une épicerie de nuit. La police y a mis fin, à Roubaix. Dans ce journal aussi, l'Ukraine, au rythme des frappes russes, nuit de bombardement intense, les centrales électriques touchées. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Et aussi la région stratégique d'Odessa.
Absolument, Odessa, le plus grand port d'Ukraine qui est visé spécifiquement depuis des dizaines de jours. Vladimir Poutine veut priver l'Ukraine de tout accès à la mer Noire.
L'actualité, c'est aussi le ministre de l'économie sur tous les fronts, Roland Lescure, interrogé au Sénat sur la loi spéciale et attentif. Sur le dossier Atlantique, l'industriel français des pompes à chaleur rachetées par un groupe nippo-américain. La pluie et la neige continuent de tomber entre l'Aveyron et l'Hérault. Des milliers de foyers privés d'électricité, même si la décrue de l'Hérault est amorcée, quand en Savoie, les vacanciers manquent de neige pour skier.
C'est des couloirs de neige de 3-4 mètres, c'est très compliqué à skier quand on est débutant. Mais on espère de la neige encore cette semaine.
Nous serons à Valsenis, en Savoie, à la fin de ce journal. À 13h30, tous au fourneau, le fait maison pour le réveillon. Échanger avec deux cuisiniers, nos deux invités, le chef Jean-Luc Charles qui anime des ateliers de cuisine. Et Woogies, près de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Vos questions, vos recettes au 01 45 24 7000. Nous continuons sur les traces d'Ousmane Dembélé dans notre feuilleton avec l'homme qui l'a recruté au Stade Rennais. À 13h50, c'est la France, râleur interdit, guirlande lumineuse obligatoire. Cyril Petit fait le tour des arrêtés municipaux spécial Noël. Et dans C'est une chanson, la violoncelliste Astrid Cyranocian choisit, comme ils disent, semaine spéciale Charles Aznavour avec Frédéric Pommier. Voilà le 13-14 de France Inter, c'est parti, soyez les bienvenus.
France Inter.
Vous en entendez régulièrement parler ces derniers mois. Le protoxyde d'azote, ce gaz dit hilarant, détourné de son usage, il devient une drogue consommée y compris par des mineurs, parfois très jeunes. Son utilisation est impliquée dans plusieurs cas d'accidents de la route, parfois mortels. Le phénomène est tel que certains départements ont décidé d'interdire sa consommation dans l'espace public. C'est compliqué de prohiber la vente puisque ces bonbonnes sont utilisées notamment en cuisine. Et certains en profitent pour organiser des trafics. C'était le cas dans cette épicerie de nuit à Roubaix. Selon les informations données par le parquet de Lille, Justine Clos, l'affaire était bien rodée et les policiers ont saisi beaucoup de matériel.
Ce sont en fait des voisins de l'épicerie qui se plaignent en octobre dernier auprès de la police municipale. Ils dénoncent des troubles à l'ordre public et des nuisances sonores sur le parking de l'enseigne. Une enquête est alors ouverte. Un des policiers commence à surveiller l'épicerie, les allées et venues. Il vérifie aussi les caméras de vidéosurveillance. C'est là qu'il découvre un véritable mode opératoire. Les clients entrent d'abord dans l'épicerie pour passer commande. Ils repartent ensuite dans leur voiture, puis sont rejoints par une autre personne. Elle vient d'un appartement qui se trouve à côté et leur remet un gros paquet. Certains clients se mettent alors à inhaler directement le produit. D'après le parquet, c'est en fait tout un circuit logistique qui est mis en place. L'appartement sert de lieu de stockage, l'épicerie elle de lieu de vente. En 6 semaines, près de 1000 cartons susceptibles de contenir du protoxyde d'azote sont livrés sur place. L'enquête permet aussi de découvrir près de 300 000 euros de chiffre d'affaires non déclarés. En garde à vue, la gérante de cette épicerie de nuit à Roubaix a reconnu les faits.
Justine Clos, ici Nord pour ses précisions. Et le préfet du Nord annonce aujourd'hui l'interdiction de la consommation de protoxyde d'azote dans le département. Pendant la période des fêtes. Le Père Noël a donc bien du mal à retrouver ses petits depuis hier. Des milliers de colis n'ont pas perdu mais qui ne peuvent plus être suivis en raison de cette cyberattaque subie par La Poste. Le site internet de La Poste, une partie de ses services sont toujours indisponibles. Aujourd'hui, plus de 24 heures après le début de cette attaque. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Lyon devant un bureau de poste du centre-ville et vous avez rencontré quelques clients encore déboussolés.
Les clients d'ailleurs posent de nombreuses questions au guichet ce matin. Tous demandent où sont leurs colis. En effet, le site internet est indisponible. Camille attend une livraison et vérifie sur son téléphone.
Hop, on va relancer.
Il va suivre ma commande.
J'ai le suivi de colis, c'est le numéro que j'ai redonné au guichet, hein, c'est le... La poste, le site est indisponible. Je pensais que c'était le téléphone au début, mais je suis allé sur... quand on tape la poste sur internet, vraiment, il n'y a plus de page.
Pour les envois aussi, c'est compliqué. Philippe vient de vendre une arme factice sur internet à un autre internaute et il vient d'apporter le paquet.
C'est une commande sur un site, voilà. Je viens de la vendre et du coup, je pense que le monsieur veut un cadeau Noël ou quelque chose pour lui. Donc voilà, ça sera son cadeau, quoi. Mais je pense qu'il va avoir un peu de retard parce que les gens m'ont dit qu'il y aurait du retard apparemment par rapport à la cyberattaque qu'il y a eu. Ils sont un peu perdus, j'ai l'impression.
Mais parfois, la frustration est plus difficile à gérer. Louis vient d'amener de nombreux colis. Il travaille dans un magasin de vêtements juste à côté et depuis hier, c'est chaotique.
Nous, on passe par Colissimo, tout Colissimo était en carafe. Ce qui nous a un peu mis dans la panade. Hein. Malheureusement, c'est que c'est pas de leur faute. Hein. Ça arrive, mais c'est pas très rigolo parce qu'après, j'ai des gens au téléphone qui sont pas très contents parce qu'ils auront pas leur, colis pour Noël.
Ce vendeur espère juste que ses envois n'arriveront pas sous les sapins avec trop de retard.
Mathieu Bonnour en direct de Lyon pour France Inter. La Poste met les bouchées doubles pour arriver à tout livrer, affirmé ce matin le ministre de l'économie Roland Lescure, selon qui cette cyberattaque a baissé en intensité. Et on en parle maintenant avec notre invité. Bonjour Clément Domingo.
Bonjour.
Vous êtes ce que l'on appelle un hacker éthique, un expert en sécurité. Ça fait maintenant plus de 24 heures hein, que les services de la Poste sont affectés. Est-ce qu'on peut dire que c'est une attaque d'ampleur ?
C'est une attaque d'ampleur parce que ce qu'il faut comprendre, pour des attaques de type déni de service, maximum, elles vont durer quelques minutes ou au mieux quelques heures, alors que là, ça va bientôt faire 24 heures que l'attaque dure. Donc, on est sur une attaque d'ampleur qui touche les services de la Poste.
Rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une attaque par déni de service ?
Pour vous expliquer facilement et que les auditeurs comprennent, une attaque par déni de service ou ce qu'on appelle du DDoS, c'est comme si dans un magasin, vous aviez 1000, puis 10 000, puis 100 000, puis 1 million de personnes qui voudraient rentrer dans le magasin. À un moment donné, vous ne pouvez plus, ça va craquer. Bah là, on a exactement la même chose. Donc, on va avoir des milliers, des centaines de millions de connexions sur les services de la Poste, ce qui fait que les sites vont tout simplement tomber.
Vous disiez effectivement attaque d'ampleur. Est-ce qu'on sait pourquoi ça prend autant de temps là, de rétablir les services ?
Bah, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez une attaque de ce type, donc surtout sur le côté distribué, donc on va dire que l'attaque ne va pas seulement venir par exemple d'une région, d'un pays, elle peut venir de plusieurs points dans le monde. Ce qui fait que si vous vouliez par exemple venir bloquer un accès, bah, les attaquants peuvent ouvrir un autre et vous attaquer par exemple d'un autre pays. Ce qui fait que ça peut prendre énormément de temps pour ce qu'on appelle faire un peu de la mitigation, donc venir un peu contenir cette cyberattaque.
Alors les services bancaires hein, de la Banque Postale ont été touchés, on va y revenir dans une minute. Mais d'abord, là, ce sont la distribution de courriers, la distribution de colis qui sont touchés. À quoi ça sert pour des pirates d'attaquer la distribution de courriers en France ?
Eh ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est sur un type de cyberattaque qui est assez particulier, sur le déni de service. Le déni de service ne sert pas à grand-chose si ce n'est vraiment de paralyser un système, un service. Et quand vous paralysez quelque chose comme la Poste, qui sert quand même à des millions de Français, ce n'est rien d'autre que derrière pour une revendication politique ou géopolitique. Mais à l'heure actuelle où on se parle, c'est quand même assez étonnant dans la mesure où on ne connaît toujours pas l'acteur cybercriminel derrière, même si on pourrait attribuer cette fois-ci cette cyberattaque à une puissance étrangère.
Ça peut être de la déstabilisation, donc.
On est totalement sur de la déstabilisation, de venir s'attaquer une fois de plus à un symbole pareil qui est assez central, qui va, et surtout à quelques heures de Noël, je pense que la question peut réellement se poser.
Pour ce qui est de la Banque Postale qui a été touchée, ça fonctionne de nouveau hein, aujourd'hui, même si c'est un peu au ralenti. La Poste et le gouvernement assurent qu'aucune donnée personnelle n'a été aspirée. Est-ce que c'est crédible ?
C'est même très crédible et il faut en effet rassurer vos auditeurs. Donc là, on ne parle pas, vous savez, d'extraction de données, de fuite de données, comme on a pu le voir tantôt avec le ministère de l'Intérieur, ou aussi avec le ministère des Sports, aussi avec d'autres enseignes en France. Donc là, on est vraiment sur une paralysie du système, mais en paralysant le système quand même, ce sont des pertes financières pour la Poste et surtout pour l'usager, pour le citoyen, vous savez qu'il y aura peut-être des colis envoyés pour les fêtes de Noël, peut-être aussi des colis qu'il attend pour les mettre demain soir sous le sapin. Il y a un vrai, en tout cas une vraie gêne qui est faite. Donc là, on est vraiment sur de la déstabilisation, sur une paralysie du système, et donc on est très loin de l'extraction de données personnelles.
Pas d'inquiétude pour les clients de la Banque Postale, pas de numéro de compte dans la nature, hein, si je résume.
Exactement, pas d'inquiétude. Donc là, vos comptes bancaires ne sont pas touchés, vos données personnelles n'ont pas été touchées. Donc là, mais sauf que vous ressentez cette gêne-là parce que vous allez mettre beaucoup plus de temps et en espérant quand même que dans les prochaines heures, tout revienne à la normale.
Merci Clément Domingo, spécialiste en cybersécurité, d'avoir répondu aux questions de France Inter. La continuité de l'État devrait être assurée en début d'année prochaine. En tout cas, le Parlement est appelé par le gouvernement à voter ce soir la loi spéciale qui, faute de budget, autorise l'État à prélever l'impôt, transférer des fonds aux collectivités territoriales et emprunter sur les marchés financiers. Hormis la France insoumise qui prévoit de s'abstenir, tous les groupes politiques voteront pour. Bercy espère un accord entre les forces politiques sur le budget fin janvier pour éviter un nouveau dérapage du déficit public. L'objectif du gouvernement, ça reste un déficit inférieur à 5% de la richesse nationale l'an prochain. Avant le vote de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la loi spéciale, les ministres en charge de l'économie et du budget sont interrogés en commission au Sénat. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Après les députés hier, ce sont les sénateurs qui ont demandé ce matin des explications au gouvernement.
Oui, déjà sur le coût de la loi spéciale, mais le ministre de l'économie Roland Lescure n'est pas en mesure d'apporter une réponse précise.
La réponse brève mais juste, c'est ça dépend. C'est-à-dire ça dépend évidemment de combien de temps ça dure. Si on ne faisait rien du tout, si on laissait l'économie française couler en 2026 sur la base de 2025, sans aucune mesure de limitation des dépenses, sans aucun impôt nouveau, ce qu'on appelle la version tendancielle du déficit, on serait aux alentours de 6%.
Sauf que le gouvernement espère arriver à 5% de déficit. Alors la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, ajoute « Chaque jour de loi spéciale est un jour de trop ». Le gouvernement exhorte les parlementaires à trouver un compromis pour faire passer le budget d'ici la fin janvier. Le sénateur centriste Michel Canevet demande, lui, des garanties.
Il faudrait que vous nous précisiez en particulier sur quel chapitre vous entendez formuler des économies.
Le Sénat, dominé par la droite et le centre, est arc-bouté sur les économies. La gauche, à l'Assemblée notamment, veut plus de recettes pour investir. Alors face à ces positions antagonistes, le sénateur LR Olivier Paccaud ne voit pas d'issue.
Les cigales vont pas se transformer en fourmis et vice-versa. Vous pouvez pas attendre ça de nous, en tous les cas. Et donc, une façon méthodique de pouvoir avancer, c'est quand même, et de pouvoir réformer éventuellement après, c'est d'utiliser ce 49.3. N'est-il pas une possibilité, madame et monsieur le ministre ?
Un passage en force sur le budget, la ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, ne veut pas y croire pour l'instant. Elle revient sur les débats budgétaires, les amendements votés à l'Assemblée et au Sénat.
Il y a quand même eu 50 mesures adoptées dans les mêmes termes entre l'Assemblée et le Sénat. Je trouve que c'est déjà un bon point de départ.
Optimisme affiché, la ministre pense que les parlementaires parviendront à trouver des points de convergence.
Sonia Gobry avec Mickaël Simon pour les moyens techniques. Et Matignon indique que le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprimera ce soir sur le budget. Alors les différents ministres ces dernières heures expliquent les conséquences. L'absence d'accord budgétaire dans leur domaine. Le ministre des Transports par exemple, Philippe Tabarot, indique qu'il repousse une commande de train de nuit prévue en janvier pour un montant d'environ 1 milliard d'euros. Même chose pour des investissements en matière de contrôle aérien. La loi spéciale permet de continuer à payer les fonctionnaires, mais pas de recruter plus là où il y a besoin. Dans l'éducation nationale, par exemple, le concours va être ouvert l'an prochain, au printemps prochain, au Bac plus 3. Il ne sera plus réservé aux personnes titulaires d'un master. Mais pour que la réforme soit appliquée, il faut que les postes de professeurs stagiaires soient inscrits dans le budget de l'État. Dans une loi spéciale, ce n'est pas le cas. Les étudiants concernés et les établissements en manque d'enseignants s'inquiètent donc. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, le premier syndicat d'enseignants dans les collèges et lycées.
Aujourd'hui, on a un gros point d'interrogation sur la capacité à proposer ces emplois et organiser ces concours de recrutement comme il faudrait. Ça génère beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour les étudiants qui se sont préparés depuis plusieurs mois? Est-ce qu'on sera en mesure, dès le mois de mars, puisque les premiers concours de recrutement commencent début mars, est-ce qu'on sera en mesure de tenir les concours? Est-ce qu'on sera en mesure de proposer l'ensemble des emplois nécessaires pour couvrir le concours à Bac plus 3 et le concours à Bac plus 5, il serait quand même bon pour tout le monde que dans le courant du mois de janvier, on puisse se projeter sur ce qui est possible de faire ou pas. Il ne faut pas oublier que derrière ces chiffres, il y a aussi des écoles, des collèges et des lycées qui doivent préparer la rentrée et on ne va pas pouvoir non plus attendre trop longtemps.
Sophie Vénétité avec Laurélie Carrive, le ministre de l'économie que nous entendions il y a un instant, très attentif à un tout autre sujet en ce moment. Bercy dit suivre de très près le rachat du groupe Atlantique, une grande entreprise française spécialisée dans les pompes à chaleur. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Atlantique est aujourd'hui basé à La Roche-sur-Yon et va être racheté par un groupe américano-japonais.
Oui, un consortium baptisé Paloma Rim, basé à Tokyo, spécialisé dans les systèmes de climatisation, de production d'eau chaude, de chauffage, et visiblement très intéressé par le numéro 1 français des pompes à chaleur qui a grossi ces dernières années. 12 000 salariés à travers le monde, une quinzaine de sites industriels en France, des marques comme Sauter, par exemple, qui parleront peut-être davantage au grand public, pour un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Bref, Atlantique, un leader du secteur qui attire les convoitises, mais l'État, qui est au courant de ce possible rapprochement depuis plusieurs jours, veut avoir son mot à dire. En tout cas, il surveille, comme pour n'importe quel rachat d'une activité en France par des investisseurs étrangers. Il y a une procédure à suivre, des autorisations potentielles à obtenir, des conditions à remplir, sachant que les pompes à chaleur sont aujourd'hui au cœur de la stratégie d'électrification portée par le gouvernement. Alors, si c'est pour développer l'activité, ok. En revanche, si c'est pour désosser, prendre l'argent et se tirer, c'est non, a déjà prévenu le ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure, très vigilant encore une fois sur le dossier.
Merci Maxime Debs, service économie de France Inter. Trois enfants de 2, 4 et 5 ans grièvement blessés ce matin après l'explosion suivie d'un incendie d'un pavillon dans la commune de Magny-les-Hameaux, c'est dans les Yvelines. Un adulte est aussi dans un état grave, les 4 blessés sont en urgence absolue. La cause de cette explosion est pour l'instant inconnue. Le froid chez les civils, une arme comme les autres. Comme chaque hiver, l'armée russe multiplie les frappes contre les centrales électriques ukrainiennes. 13 régions touchées la nuit dernière, selon le président Volodymyr Zelensky. Il y a au moins 2 morts. Des coupures de courant d'urgence ont été déclenchées un peu partout en Ukraine. Ce sont les régions les plus à l'ouest du pays qui sont concernées. D'où la décision de la Pologne de faire décoller ses chasseurs pour protéger son espace aérien. Claude Guibal, vous êtes de retour dans ce studio. Une région est aussi particulièrement ciblée par la Russie ces derniers jours, c'est la région d'Odessa sur la mer Noire.
Oui, parce qu'Odessa, en fait, c'est le poumon économique de l'Ukraine. C'est sa principale ouverture sur le monde. Sur la mer Noire, ses ports font transiter les céréales, l'huile de tournesol, les métaux, tout ce qui fait vivre une économie qui est en fait largement tournée vers l'exportation. Et c'est précisément pour cela que la Russie frappe ici méthodiquement presque chaque jour en visant les ports et les infrastructures énergétiques parce que sans électricité, vous le comprenez, un port est paralysé, il n'y a plus de grues, plus de silos, plus de chargements, on ne peut rien embarquer ni débarquer, les exportations chutent et du coup les recettes s'effondrent. L'Ukraine, vous le savez, c'est notamment un des leaders mondiaux dans la production d'huile de tournesol, et bien ces entrepôts ont été même particulièrement visés la semaine dernière. On voit donc que c'est une stratégie d'isolement qui est ouvertement assumée. Vladimir Poutine veut priver l'Ukraine d'accès à la mer Noire en représailles aux attaques sur sa flotte par des drones navals. La Russie veut en fait reprendre le contrôle de cette mer qu'elle contrôlait au début de la guerre grâce à sa flotte qui était basée en Crimée et qui donc imposait le blocus. Mais la riposte de l'Ukraine avait, on s'en souvient, obligé la flotte russe à se replier. Kiev avait donc pu rouvrir ses ports et Moscou, en les frappant à nouveau, touche au cœur le fragile équilibre économique de l'Ukraine et évidemment son avenir.
Claude Guibal de la rédaction internationale de France Inter. On vient d'apprendre l'arrestation à Londres de la militante Greta Thunberg. Elle participait dans la capitale britannique à une manifestation en soutien à l'organisation Palestine Action interdite au Royaume-Uni. 6 membres de ce groupe pro-palestiniens sont en grève de la faim en prison depuis plusieurs semaines. La militante suédoise tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Je soutiens les prisonniers de Palestine Action et je m'oppose au génocide ». Fermez les guillemets, c'est ce que dit un porte-parole d'une association présente sur place qui précise qu'elle a été arrêtée en vertu de la loi antiterroriste britannique.
France Inter, le 13-14. Kevin Dufraîche.
Frédéric Péchier dort en prison depuis jeudi et sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises du Doubs. L'ancien anesthésiste reconnu coupable d'avoir empoisonné 30 patients dans deux cliniques de Besançon, 12 sont morts. Frédéric Péchier se dit innocent de tous les faits qui lui sont reprochés. Il fait appel de cette condamnation. Il a formulé aussi une demande de remise en liberté. Et Jean-Philippe Deniaud, vous qui avez suivi ce procès pour France Inter, ce matin, vous avez eu accès à ce qu'on appelle les motivations de la cour d'assises, ce document qui détaille les raisons pour lesquelles les jurés ont décidé de condamner Frédéric Péchier, décrit dans ce document comme un tueur en série.
Ces crimes se singularisent par leur caractère aveugle, écrivent la cour et les jurés, avec des victimes visées au hasard pour régler un conflit avec un confrère. Avec le fonctionnement d'un tueur en série, insiste la cour d'assises, il savait qu'il pouvait agir en toute impunité, protégé par son statut et par un fonctionnement familial clanique, notamment un père qu'il ne pouvait pas décevoir, une épouse exigeante et même une sœur avocate qui, jusqu'à son procès, l'a enfermé dans le déni. Ainsi, la clinique est devenue un terrain de jeu qui lui a permis de prendre sa revanche sur le vilain petit canard qu'il était aux yeux de ses proches. Anesthésiste méprisant, n'hésitant pas à s'en prendre à un enfant de 4 ans, manipulateur, menteur, pervers, il se met la mort au bloc, analyse la cour et les jurés. Il a organisé son escalade criminelle dans la haine, ajoute-t-il, en justifiant de prononcer une période de sûreté de 22 ans par l'absence totale de remise en cause de Frédéric Péchier, rendant le risque de récidive majeur, conclut la cour d'assises.
Jean-Philippe Deniaud. En Turquie, deux jeunes françaises accusées d'avoir transporté 25 kilos de cannabis depuis la Thaïlande viennent d'être condamnées à 10 ans de prison. Elles ont été arrêtées le 28 février lors d'une escale à l'aéroport d'Istanbul avec deux valises contenant la drogue. Leurs avocats réclament maintenant leur transfert vers une prison française. Nos factures d'eau vont-elles augmenter l'an prochain? C'est la crainte récurrente ces dernières semaines des élus locaux ou des associations de consommateurs. Parce que le 1er janvier, les gestionnaires de réseaux d'eau vont devoir dépenser plus avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation sur les PFAS, ces polluants éternels. Le contrôle de 20 PFAS dans l'eau du robinet devient obligatoire. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Et des associations d'élus se demandent donc qui va payer pour ces contrôles et qui va dépolluer en cas de teneur en PFAS trop importante?
Oui, c'est le cas de l'Association nationale des collectivités exposées aux pollutions industrielles, AMARIS, qui vient de publier une tribune intitulée « Face aux PFAS, nous n'y arriverons pas seuls ». Son vice-président Pierre Athenaz, par ailleurs élu à la métropole de Lyon, s'inquiète du risque d'explosion des coûts de la dépollution.
Sur la métropole de Lyon, on espère qu'on va être en dessous du seuil qui est imposé par la réglementation. Si on ne l'est pas, il va falloir tirer des canalisations d'eau qui arrivent du nord de la métropole pour pouvoir diluer en bas. Et là, ça va rajouter 10 à 12 millions d'euros aux 4 millions déjà investis.
Un coût colossal dénoncé aussi par le réseau Amorce, qui regroupe des collectivités territoriales sur les questions de la gestion des déchets, de l'énergie et de l'eau. Pour son délégué général Nicolas Garnier, le principe du pollueur-payeur n'est pas suffisamment appliqué face aux diverses pollutions.
Ce qu'il faudrait mettre en place, c'est le principe pollueur-payeur, c'est faire payer ceux qui mettent sur le marché ces produits, ces pesticides, ces microbilles de plastique, ces PFAS, et qui aujourd'hui ne payent presque pas ou pas du tout le coût du traitement de l'eau. Donc il est temps d'appliquer pollueur-payeur plutôt que usager de l'eau payeur.
Le risque, c'est que les coûts de la dépollution se répercutent sur la facture des Français. D'après l'UFC Que Choisir, le prix de l'eau a déjà augmenté, un bond de 16% ces deux dernières années.
Le prix et surtout la qualité de l'eau. Programme du téléphone sonne ce soir sur France Inter. Peut-on encore boire de l'eau de qualité? Question et vos réactions avec François Geffrier à partir de 19h20. Merci Sandy Dauphin. Un mot de football, la Coupe d'Afrique des Nations. 4 matchs aujourd'hui, dans quelques minutes, la République démocratique du Congo face au Bénin. Puis le Sénégal, le Nigeria et ce soir la Tunisie entrent en lice dans cette première journée de phase de groupe. Les skieurs, eux, professionnels comme amateurs, ont bien du mal à profiter des pistes dans les Alpes en ce moment, en pleine vacances de Noël. Ceux qui ont la chance de partir au ski pour les vacances, eh bien, attendent désespérément que ça tombe. Par endroits, aucun flocon depuis près d'un mois. Illustration de ce manque de neige en Haute-Maurienne, à Valsenis et Bessan, les conditions deviennent de plus en plus difficiles, François Ventéjou.
À 1300 mètres d'altitude dans la station de Valsenis, il n'y a qu'un ruban de neige de quelques mètres de large au milieu des champs, comme le constate Frédéric, arrivé de Belgique.
Très très vert, malheureusement. C'est des couloirs de neige de 3-4 mètres, c'est très compliqué à skier quand on est débutant. Mais on espère de la neige encore cette semaine.
Pour Fabienne, venue de Lille avec toute sa famille, ce manque de neige, c'est une mauvaise surprise.
Ouais, t'es quand même un peu vert, mais bon, ça suffit pour... Pour moi, ça suffit. Pour plein d'autres, je pense que ça suffit pas. Mais pour nous, ça suffit.
Près d'un tiers des pistes sont fermées et c'est effectivement un peu juste pour Clarissa, arrivée de Lausanne avec ses deux enfants.
Là, on attend la famille qui va nous rejoindre cet après-midi. Et si on n'avait pas eux qui nous avaient dit bah, « on vient tous ici », je crois qu'on serait reparti. Après deux jours, sans neige, ça le fait pas trop. Pour les filles, ça leur est égal, mais nous, on peut pas vraiment skier. Du coup, en tant qu'adultes, c'est pas vraiment possible, non.
Les conditions sont heureusement meilleures au-dessus de 2000 mètres, sinon il faut aller à Bessan pour le ski de fond. La 12 pistes sont ouvertes sur 16, même si la qualité de la neige n'est pas optimale, selon Gladys.
Mais bon, c'est quand même la première sortie de ski de l'année, donc on est quand même très contents. Faut faire avec Dame Nature, en fait. Elle nous a donné ça, c'est bien. On fait avec.
À défaut d'abondantes chutes de neige, c'est une vague de froid qui va arriver avec du soleil d'ici quelques jours.
Un reportage ici, pays de Savoie, et la neige arrive, nous dira Elena Morna dans la météo dans quelques instants. Dans l'Aveyron, elle est déjà là et 25 000 foyers privés d'électricité aujourd'hui en raison de ces chutes de neige. C'est ce qu'annonce à l'instant Enedis qui gère le réseau de transport d'électricité. L'Hérault, de son côté, est maintenu en vigilance rouge pour crue, mais la décrue est bien amorcée selon la préfète du département. Enfin, je vous emmène en Allemagne, à Zeifen, pour une petite carte postale de Noël, parce que ce village de 2000 habitants à la frontière tchèque est un peu la capitale européenne. Des jouets en bois, 1,5 million de visiteurs s'y pressent chaque année pour admirer aussi les décorations et les figurines sculptées à la main qui ont fait la réputation de la ville. Reportage Sébastien Baer.
Sur les hauteurs du village, l'atelier Fuchner est une institution penchée sur le tour à bois. Marcus fabrique les casse-noisettes inventées par son aïeul il y a 155 ans.
On place la noix dans sa bouche et on appuie sur le levier à l'arrière pour la casser. Il faut 130 étapes pour fabriquer une figurine, pour passer du morceau de bois brut au produit fini peint avec la fourrure de lapin.
Les 5 employés de l'atelier donnent vie chaque année à 600 casse-noisettes en forme de roi, soldat ou pompier. Le village s'est tourné vers le travail du bois quand les gisements d'argent et d'étain se sont épuisés. Depuis 300 ans, les gestes sont les mêmes, explique Ringo Müller, un artisan.
Un produit est fabriqué à 80% à la main. C'est ce qui rend chaque pièce unique. C'est exactement la même technique que celle de nos ancêtres. Simplement, les machines ne fonctionnent plus à l'énergie hydraulique ou à la force des pieds. Elles sont devenues électriques.
La rue principale du village déborde de magasins qui vendent les figurines fabriquées à Zeifen. Sybille a acheté une étoile de Noël.
Tout est superbe. Impossible de repartir sans rien acheter. C'est très bien que cette tradition soit préservée. On y tient beaucoup.
La relève est assurée. L'école de fabrication de jouets en bois du village forme une vingtaine d'apprentis chaque année. Zeifen, Sébastien Baer, France Inter.
Voilà donc pour cette petite carte postale de Noël venue d'Allemagne. 13h27 sur France Inter. Dans une minute donc, comme promis, les prévisions météo d'Elena Morna. Puis je compte sur vous, chers auditeurs, pour nous donner toutes vos astuces pour de bons repas de Noël fait maison, hein, sans même parler du plat principal, un amuse-bouche, une sauce, un dessert, vos idées et celles de nos invités, le chef Jean-Luc Charles qui est avec moi en studio et Woogies qui cuisine sur les réseaux sociaux. Le numéro, vous le connaissez, hein, pour nous appeler 01 45 24 7000, l'application Radio France aussi, rubrique Réagir. À 13h50, c'est la France. Bonjour Cyril Petit.
Bonjour Kevin.
Du journal Ouest France, un tour de l'Hexagone un peu particulier dans votre chronique.
Eh bien de Eulan dans le Calvados à Besanne dans la Marne en passant par Andrézieux-Boutéon dans la Loire, je vous raconte, Kevin, ces mères qui font des blagues pour Noël.
A tout à l'heure Cyril, et puis le grand Charles toute cette semaine dans C'est une chanson. Comme ils disent, c'est le choix aujourd'hui d'Astrix Cyranocian.
Dès que j'ai mis un pied à Paris, j'ai demandé à mes parents d'aller voir cette fameuse rue Sarrazade. Et voilà, j'ai une grande tendresse pour cette chanson. Il n'y a aucune vulgarité, il n'y a aucune attaque. C'est simplement une expression d'amour et une volonté d'aimer et d'être aimé comme on est.
La violoncelliste avec Frédéric Pommier, juste avant 14h.
France Inter présente Femmes d'exception, un livre de Laura Adler. Elles sont françaises, américaines, iraniennes, allemandes.
Je les ai lues, écoutées, aimées. Elles nous ont construites, bouleversées, changées. Je vous raconte l'histoire de 8 femmes engagées qui ont marqué le XXe siècle.
Femmes d'exception de Laura Adler, un livre France Inter.
La météo.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Et bonjour Elena Mornat.
Bonjour.
La situation s'améliore dans le sud-est, mais les vigilances crues, on le disait, sont maintenues.
Les pluies vont faiblir, oui, mais elles restent localement soutenues et orageuses. Les cours d'eau peuvent encore réagir rapidement, surtout l'Hérault, dans sa portion aval. Le département reste donc en vigilance rouge et vigilance orange pour la Lozère, le Tarn et l'Aveyron. Alors, sous la pluie, Météo France annonce encore de bonnes rafales de vent et ça floconne toujours sur les Alpes du Sud, ainsi que sur les Pyrénées et le sud du Massif central. Davantage de neige attendue ces prochains jours. Ailleurs, c'est tout gris et parfois quelques gouttes entre la Garonne et le Rhône. Mais voilà que le ciel s'éclaircit sur le nord-est de la Seine, ainsi que de la Bretagne à la Vendée.
Plus clair, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi beaucoup plus frais.
Pas plus de 3 à 9 degrés du nord-est vers l'ouest cet après-midi. On aura quand même plus de douceur, ou moins de fraîcheur en tous les cas sur les bords de mer. 9 à 13 de la Bretagne au Pays Basque, et toujours 14 à 17 sur les littorales méditerranéens.
Les prévisions météo d'Elena Mornat. Merci beaucoup.
France Inter. De 13-14, Kevin Dufraîche.
Si vous avez eu le temps, que vous êtes prévoyant et motivé, vos courses sont déjà faites, vos couteaux aiguisés, vos casseroles brillent de mille feux, vous êtes prêt à vous frotter au réveillon de Noël, au menu de fête au pluriel, hein, tous en cuisine, avec les enfants, les grands-parents, les cousins, les copains, pourquoi pas, si vous avez abandonné le traiteur et le pâtissier que vous aimez cuisiner vous-même à la maison en cette période. Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou l'application de France Inter pour nous écrire rubrique Réagir. Appelez-nous aussi si au contraire vous n'arrivez pas à vous y mettre. Peut-être que nos invités passionnés peuvent vous aider. En studio à mes côtés, Jean-Luc Charles, bonjour.
Bonjour.
Chef cuisinier, vous avez travaillé notamment avec les équipes d'Alain Ducasse ou Yannick Aleno, formateur pour Chef Square, aujourd'hui entreprise qui propose des cours de cuisine à Paris, Lille et Lyon, on va en reparler. Et puis Hugo, alias Woogies, à distance avec nous depuis Bruxelles, bonjour.
Bonjour Kevin.
Vous cuisinez-vous sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, TikTok, YouTube, et auteur du manuel du cuisinier amateur, 2 tomes publiés aux éditions du Chêne. D'abord, une question la même pour vous deux. Est-ce que vous aimez cuisiner à Noël ou est-ce que, au contraire, c'est le moment où c'est un peu trop pour vous ? Jean-Luc Charles, peut-être d'abord.
On aime forcément toujours cuisiner quand on est chef de cuisine. Après, c'est vrai qu'on est très sollicité dans cette période. Et il y a quelques fois, on aimerait ne pas l'être. Mais bon, c'est complètement antinomique avec le fait de faire plaisir avec ses amis ou la famille. Donc, on le fait par amour et par cœur, bien sûr.
Ouais. Woogies, vous ne faites pas un trop-plein, vous, de cuisine pendant Noël ?
Bah non, c'est un peu la même réponse que Jean-Luc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on cuisine pour le boulot toute l'année. Donc, c'est vrai que ce moment-là où on cuisine avec juste les amis, la famille, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de problématiques à gérer, de lumière ou autre. Donc, franchement, c'est très agréable.
Oui, parce que pour beaucoup d'entre nous, hein, faire la cuisine pour toute la famille, c'est souvent synonyme de corvée. C'est pour ça qu'on a du mal à se motiver. Tiens, comment on fait, Jean-Luc Charles, pour ne pas y passer toute la journée si on veut quand même cuisiner ?
Eh bien, en fait, il faut déjà faire la différence entre je me nourris la semaine et je fais à manger le week-end. Ouais. C'est vraiment 2 cuisines différentes. C'est 2 anticipations, 2 organisations différentes. Et en fait, pour cuisiner la semaine sans que ce soit une contrainte, bon, en fait, il faut pratiquer simplement avec des bons produits, mais rester simple et faire à manger en 20-30 minutes, ça suffit. Mais il faut rester simple, en fait. Il ne faut pas tomber dans le syndrome Top Chef où on veut faire trop compliqué alors qu'on ne sait pas trop. Il vaut mieux apprendre à marcher plutôt que courir.
Woogies, j'imagine que la simplicité, c'est aussi votre mot d'ordre. Alors, pour les réseaux sociaux, on essaye souvent de faire des choses très jolies, hein, pour la vidéo, etc. Est-ce que c'est difficile, tiens, de faire joli ? Est-ce que quand même vous dites, bon, avant de faire joli, il faut faire rapide ou en tout cas simple ?
Alors, il y a 2 questions qui sont très intéressantes et où on pourrait passer des heures, mais c'est vrai que la simplicité, c'est forcément ce que vont rechercher les gens, une astuce, quelque chose qui permet de changer de l'originalité dans une recette pour manger quelque chose de différent. Mais derrière, il y a évidemment le visuel qui va primer, parce que bah, sur les réseaux sociaux, comme on ne peut pas faire goûter ni faire sentir, on a besoin de faire voir. Donc, on a envie aussi d'avoir quelque chose qui soit joli et qui soit aussi très agréable à l'oreille. Quand ça croustille, ça va forcément attiser un peu plus les oreilles, le regard et les papilles.
Alors, allons-y sur les repas de fête. Et puis, bien sûr, il y a la question du budget, hein, quand on veut tout faire soi-même. Jean-Luc Charles, est-ce que si je vais que au supermarché, parce que ça m'arrange, est-ce que je peux faire toutes mes courses au supermarché et faire quand même un bon repas de fête ?
Oui, alors après, c'est un petit peu le sens des grandes surfaces, c'est d'avoir tout sur place et de pouvoir tout acheter en même temps. À partir du moment où on achète des produits frais non transformés, il y a de fortes chances que ce soit bon. Mais dès qu'on touche à un produit transformé, on sait très bien que ça apporte des complications. Donc le fait de faire par soi-même des produits frais, c'est déjà une bonne avancée, déjà un bon calcul.
Le produit brut et Woogies, peu importe où on fait ses courses, c'est ça, hein, c'est le produit brut qui compte, même si on n'a pas forcément les moyens d'acheter de la grande qualité, mais au moins quelque chose de, comme disait Jean-Luc Charles, de frais et de brut.
Complètement, le fait d'avoir quelque chose qu'on va transformer soi-même. Là, par exemple, je viens de faire une purée de carottes. C'est juste des bonnes carottes avec un peu de beurre, des échalotes et un soupçon de crème. Ça fonctionne très bien, c'est délicieux. Et pour autant, je les ai achetées au supermarché.
Et de préférence de saison, hein, les carottes, pour le coup, c'est de saison. On va avoir une première auditrice avec nous. Monique, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes à Lyon, vous vouliez nous appeler parce que vous vouliez parler d'une recette que vous faites pour les fêtes. Expliquez-nous.
Alors, ça s'appelle le pâté bourbonnais, qui est en fait une tourte faite avec deux pâtes, une pâte pour le dessous, et on incorpore des pommes de terre coupées en rondelles, comme pour faire un gratin dauphinois. Uh-huh. On met quelques oignons, un petit peu d'oignons, on sel, on poivre, on recouvre d'une pâte aussi, ça fait une belle tourte. Voilà. On fait une petite cheminée au milieu, on met un petit papier sulfurisé pour faire une jolie cheminée.
D'accord.
Et on enfourne ça pendant une heure au four, un four pas trop vif, enfin comme pour une tarte ou un petit peu plus long parce que les pommes de terre doivent cuire. Et quand c'est bien chaud, bien cuit, on incorpore plein de crème fraîche.
Voilà, et ça c'est juste des pommes de terre et de la crème fraîche, donc c'est assez économique, on va dire.
Bah, c'est extrêmement économique. Alors quand c'est pour le jour de Noël, ma grand-mère nous faisait ça quand on revenait de la messe de minuit pour qu'on ait quelque chose de chaud en rentrant.
D'accord.
Mais c'était la campagne des paysans qui n'étaient pas très riches, mais maintenant moi je suis un peu plus riche, j'incorpore des morilles fais cuire auparavant. Je fais cuire des morilles au moment où je prépare ma pâte, tout ça. Les morilles, j'en mets quelques-unes incorporées dans les pommes de terre et c'est un vrai régal.
Eh bien voilà, on peut se faire plaisir avec assez peu de choses finalement. Jean-Luc Charles, la recette que nous donnait Monique, là par exemple, on a cette idée des morilles, un petit produit d'exception. Parfois, il n'en faut pas beaucoup, ça va coûter très cher, mais en intégrant un tout petit peu, ça peut on va dire, muscler une recette.
Ben, complètement. Là, en plus, déjà, on est déjà sur une recette un peu gourmande quand même, hein, des pommes de terre, de la pâte.
Une tourte à la pomme de terre.
De la crème, pour en rajouter un peu. Bon, les morilles, évidemment, ça, c'est un côté très festif, mais on fait par exemple une fricassée de volaille avec des légumes de saison et on a fait son petit bouillon avec toutes les épluchures de légumes, bien entendu bio. Mm-hmm. Et bien ce petit bouillon dans lequel on a fait cuire sa volaille, on va la faire réduire avec un petit peu de crème et on a acheté une petite terrine également de foie gras. On coupe l'entame pour pas la présenter et on mixe ça dans la sauce et tout de suite ça fait une fricassée de volaille un peu plus festive, beaucoup plus sympathique.
Woogies, c'est un peu un poncif hein, quand on parle de cuisine, les recettes de grand-mère, mais on voit que là ça marche toujours. Vous aussi, vous vous en inspirez des recettes familiales ?
Mais oui, ça fonctionne toujours très bien. Il y a un grand retour en plus de ces recettes traditionnelles qui sont soit refaites un peu à l'identique, soit carrément un petit peu remise au goût du jour. Et c'est très agréable de voir que les gens sont de plus en plus friands de ce genre de choses. Mmh. Coq au vin, bœuf bourguignon, une joue de bœuf confite. Enfin bref, il y a plein de choses qui reviennent. C'est très chouette. Moi, je trouve en cuisine, on s'amuse bien.
Vous nous mettez l'eau à la bouche et dans une minute, je promets à nos auditeurs, on va parler de vos suggestions de menus pour les fêtes. D'abord, Jean-Luc Charles, je voudrais savoir, vous qui travaillez maintenant avec Chef Square, qui fait donc des ateliers de cuisine, est-ce que vous constatez cet engouement qu'on a l'impression de sentir des Français pour la cuisine et de vouloir bien faire à manger?
Oui. Et alors, c'est ce qui est assez marrant dans nos cours, on a un multigénérationnel, on a des jeunes, on a des fois dans un même cours trois générations qui viennent. Ça, c'est très agréable. Et puis, c'est surtout l'envie de reprendre conscience du bien-être à manger, de bien se nourrir, ça, c'est très important. Et nous, chez C-Square, on sait vraiment faire, puisqu'on fait de la cuisine également sans lactose, sans gluten, végétarienne, gourmande, bistronomique. Fusion, enfin voilà. Et il y a vraiment un engouement à vouloir refaire par soi-même. et du coup, peut-être à remettre des priorités sur le temps, s'organiser. Parce qu'on parle de bœuf bourguignon, effectivement, ça prend du temps.
Bien sûr.
Et pour autant, c'est antinomique avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, où les gens n'ont plus le temps de se faire à manger. Et on pense, nous, que c'est vraiment qu'une question de pratique. Plus on pratique, plus on est rapide.
Woogies, vous, la problématique, j'allais dire, est un peu différente, mais est-ce que les gens vous écrivent pour vous dire grâce à vous, je cuisine un peu plus? Parce que les réseaux sociaux ont aussi un peu changé notre rapport à la cuisine. Hein. Maintenant, on voit des vidéos comme les vôtres d'une minute, une minute trente. Est-ce que les gens vous disent, grâce à vous, je cuisine de nouveau?
Alors oui, les gens m'arrêtent dans la rue. Dimanche, quelqu'un m'a arrêté pour me présenter toutes les photos des menus qu'il avait fait pour Noël. Et je le sens bien aujourd'hui. Alors oui, il y a deux problématiques qui s'opposent. Celle des gens qui ont besoin de cuisiner rapidement, facilement le soir, mais également des gens qui ont envie de passer beaucoup plus de temps en cuisine. Moi, j'ai des gens qui me disent avec un grand sourire, grâce à toi, j'ai passé la journée en cuisine, c'était ouais. Génial. Et c'est cool de revoir que la cuisine devient une passion et plus uniquement une corvée. Donc, je suis d'accord avec Jean-Luc sur le fait que la semaine, on a besoin de cuisiner rapidement, mais le week-end, les gens peuvent passer des heures en cuisine avec le sourire et ça, ça fait plaisir.
On va passer à vos menus maintenant. Messieurs, on va faire entrée, plat, dessert rapidement. Alors, pour des budgets, on va dire, assez moyens. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? On fait peut-être chacun son tour. D'abord, l'entrée. Woogies, qu'est-ce que vous nous suggérez pour les fêtes?
Alors moi, j'ai fait une sorte d'entrée apéro. On a mixé un petit peu les deux, mais ouais. C'est des gougères au comté, ce que je trouve vraiment chouette. Ouais. Ça ne coûte pas très cher. On fabrique une sorte de pâte à choux, comme pour faire un pâte à choux, un petit chou sucré. Donc c'est de l'eau, du lait, de la farine, des œufs. Mm-hmm. On essaye d'incorporer les œufs progressivement dans l'appareil qui est refroidi. Et derrière, on va donc pocher tout ça avec soit une petite poche à douille, soit une cuillère, ça fonctionne très bien. Et le secret que j'aime bien, c'est de rajouter le comté sur les gougères et pas dans les gougères. Comme ça, on n'atteint pas l'humidité de l'appareil et on a quelque chose qui souffle et qui est bien croquant.
Petite astuce de chef. Jean-Luc Charles, votre entrée?
Alors, moi, c'est la pleine période de la Saint-Jacques. Alors, elle n'est pas forcément chère quand on va l'acheter au bon endroit.
Ouais.
On peut trouver le kilo de Saint-Jacques à 6 euros. Donc, c'est pas, il y a 4 pièces. Ça fait largement une très belle entrée si on met que 2 pièces hein, pour une petite entrée. Avec une purée de céleri pour redonner le goût du céleri. Parce que ça, quand on cuit le céleri tout doucement dans du lait, ça va l'adoucir énormément. Et puis après, on se met un petit peu de céleri et le lait de cuisson, on se le met de côté, on le mixe, ça fera un petit velouté pour le lendemain. Mais on en fait une fine purée et on sert ça avec un tout petit beurre d'anis et on va badigeonner la noix de Saint-Jacques de beurre d'anis et on va la mettre au four 2 à 3 minutes qu'elle reste vraiment bien nacrée au centre, dans un four pas trop chaud.
L'anis, on trouve ça où dans les rayons épices?
L'anis étoilé, oui, dans tout le rayon des épices, ou ça peut être des graines d'anis vert. À partir du moment où c'est légèrement anisé, après on se fait plaisir.
Woogies, je reviens vers vous pour le plat principal, qu'est-ce que vous nous suggérez?
Alors moi, j'avais proposé une belle joue de bœuf confite des heures. Ça prend du temps en cuisson, mais par contre, la préparation est plutôt rapide. On fait une garniture aromatique relativement simple, céleri, oignon, carotte, ail, du laurier, du thym. On fait revenir la joue de bœuf, un peu de concentré de tomate. On ajoute notre garniture, du vin, un petit peu de bouillon. On laisse mijoter ça des heures au four, donc on peut l'oublier toute la journée et le sortir le soir.
Voilà, pour ceux qui ne veulent pas rester toute la journée dans la cuisine.
Bah oui, ça qui est pratique. Et au moment de dresser, ça qui est chouette, c'est qu'on peut utiliser une passoire pour passer l'ensemble du jus et le faire réduire dans une cocotte, par exemple, pour avoir une consistance très jolie, digne d'un restaurant. On peut servir ça avec une bonne purée de pommes de terre, ce sera délicieux.
Jean-Luc Charles?
Mais nous, chez Chefsware, l'année dernière, on a fait un Wellington végétarien. On a pris un butternut qu'on a cuit longtemps au four, confit, bien épluché. Et ensuite, on l'a roulé dans une pâte avec quelques duxelles de champignons. C'est des champignons hachés avec des échalotes et puis du persil. Et puis, on a cuit ça dans une pâte feuilletée, mais ça peut être dans une brioche pour que ce soit beaucoup plus gourmand. Et une sauce à base de miso. Un peu de sauce soja pour amener un petit peu de fraîcheur. Et puis, ça faisait très bien son effet. On rajoute quelques pointes de salade. Ça peut être un peu de cresson, c'est de saison. Et puis, ça donne beaucoup de fraîcheur. Et c'est un plat complètement, du coup, végétarien, mais qui fonctionne très, très bien.
Justement, bonjour Françoise.
Bonjour.
Vous nous appelez des Yvelines, vous vouliez faire une petite remarque justement sur les plats végétariens, c'est ça? Vous avez du mal à avoir des idées?
Oui, enfin bon, moi j'ai 18 personnes à dîner demain.
Ah oui.
Il y a des végétariens, mais il y a aussi des pas végétariens du tout. Et comme moi, par exemple. J'aime bien les légumes. Et je crois que... Moi, j'aime bien faire de la cuisine raffinée. Hein.
Oui.
Je ne suis pas pour faire rapide au dernier moment. Donc, l'important, c'est surtout pour les légumes, c'est prendre de l'avance. Et une façon que j'ai trouvée de prendre de l'avance et de faire des plats végétariens vraiment raffinés avec beaucoup de légumes, c'est la petite machine à mettre sous vide.
Pour conserver vos légumes et...
Oui, mes légumes achetés au marché tout frais en fin de semaine dernière... Ça y est, ils sont épluchés, tranchés, et ils sont tous dans des petits sacs sous vide, ce qui fait qu'ils se conserveront très bien, ils seront tout frais demain, prêts à cuisiner.
Très bien, Françoise, merci.
Ça, c'est une façon de prendre de l'avance qui est très utile, surtout pour les légumes.
Les légumes sous vide, donc, et en plus, vous avez eu une petite suggestion de Wellington végétarien. Il nous reste une toute petite minute. Woogies, Jean-Luc Charles, chacun votre tour, le dessert. Woogies d'abord.
Je le fais très vite, alors comme ça je laisse de la place. L'idée c'est de faire une pavlova avec des poires au sirop, ça coûte pas très cher, donc ouais. C'est une meringue avec des blancs d'œufs, un petit peu de sucre qu'on vient monter et cuire sans ouvrir le four pendant un peu plus d'une heure 15 à 110 degrés. Et derrière on fait des petites poires au sirop, donc un mélange eau et sucre avec des poires, un peu de cannelle, de l'anis, et faire des petites choses sympas et une chantilly maison, ce sera parfait.
Tout simplement, et Jean-Luc Charles pour le dessert.
Eh bien, une base de crème anglaise qu'on reverse ensuite sur un chocolat pour faire un crémeux au chocolat. Mmh. Et puis, on sert ça avec une crème légèrement safranée.
Eh bien voilà, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, Jean-Luc Charles, je rappelle que vous êtes chef et que vous donnez des cours de cuisine dans les cours de cuisine Chef Square. Merci, Woogies. On vous retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Et puis, votre manuel du cuisinier amateur disponible en librairie, édition du Chêne. Merci à tous les deux. Bon appétit et joyeux Noël.
Bonne journée. Bonne fête.
Une semaine dans leur vie, maintenant sur les traces d'Ousmane Dembélé, cette semaine plongée dans la carrière du Ballon d'Or 2025. Bien avant le Paris Saint-Germain et la victoire en Ligue des Champions, il y a eu les débuts dans sa ville d'Évreux, où nous étions hier. Aujourd'hui, nous sommes à Rennes, où Emma Sarango a rencontré l'homme qui a repéré le jeune Ousmane pour lui faire intégrer le centre de formation du Stade Rennais.
En fait, l'histoire, c'est qu'au départ, je ne vais pas voir Ousmane Dembélé jouer. Au départ, je vais sur un match, il y a une blessure, et en fait, je quitte le terrain et je vais voir les tout petits qui jouaient. Et c'est comme ça que je vois Ousmane, en fait.
Il a quel âge, lui ?
9 ans, au retour de ce match, puisque le match reprend, et c'est là que je demande le nom de Ousmane. Moi, c'est Armand Giré, je suis recruteur pour le Stade Rennais depuis plus de 20 ans. Il faut le dire, hein, à l'époque, dans l'équipe d'Ousmane, il y avait un jeune Turc. En fait, toute la France était sur ce jeune Turc. Et aujourd'hui, tout le monde dit oui, en fait, Ousmane, on l'aurait fait, mais c'est pas si évident que ça. Il était plus frêle, il avait toujours un ballon sous l'épaule, et certainement le fait d'avoir les deux pieds lui permettait aussi, lui permet toujours d'ailleurs, d'avoir cette aisance.
Et vous êtes droitier ou gaucher ?
Gaucher.
Sûr, parce que vous marquez aussi le droit ?
Ouais, je suis plus gaucher.
Et les pénaltys, vous ne les tirez pas du droit ?
Si.
Pourquoi ?
Parce que je tire mieux du droit.
Moi, en fait, je note son nom, donc je me renseigne avec qui il s'entraîne, où il s'entraîne, et je commence à le suivre tranquillement. Je pense même qu'Ousmane, jusqu'à 12 ans, je pense qu'il ne sait même pas qui je suis. Et pourtant, je suis souvent là et je le vois s'entraîner. Ça n'empêche pas que, dès le départ, j'avais déjà noué un contact avec la maman. Qui m'a donné vraiment carte blanche. Une fois que Ousmane est venu en stage, on a pris la décision de faire déménager la famille, parce que c'était les meilleures conditions pour que Ousmane puisse s'exprimer. Et puis aussi, il y avait aussi la scolarité. Donc tout ça faisait que le déménagement se profilait, pour vous dire, hein, l'implication quand on veut accueillir un enfant à Rennes, on a porté quand même les meubles. Hein. C'est pas, on les a juste aidés à déménager. On les a vraiment aidés physiquement à déménager. En fait, Ousmane, comme disent certains ici, Ousmane, c'est comme mon fils, en fait. Donc là, bon, c'est le nouveau terrain baptisé Dembélé. C'est l'ancien, on va dire, un terrain de compétition. Son premier stage était sur ce terrain-là. Ousmane, je suis très fier de ce qu'il fait. Le club est très fier de ce qu'il fait parce qu'il fait partie de la famille rennaise. Tout ça, c'est parce qu'on a eu confiance en lui, parce que ça a eu le travail, c'est de la fierté. Pour sa maman aussi. Peut-être que c'est sans doute même au fond de moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est peut-être ça. Plus le fait de l'image d'Ousmane, c'est de savoir que cette femme-là, elle a lutté pour ses enfants et aujourd'hui, tout va bien, quoi. De temps en temps, oui, on me le rappelle. Je pense que c'est plus les tout-petits, ceux qui arrivent. Avec les réseaux sociaux, beaucoup de gens se renseignent, les gens savent. Donc, ah oui, c'est lui qui a recruté Ousmane Dembélé. Mais bien souvent, je dis... mon meilleur joueur, c'est celui que je vais recruter demain. Donc, vous voyez.
Feuilleton signé Emma Sarangou. Les 5 épisodes sont disponibles sur franceinter.fr. Demain, dans le 13-14, Ousmane Dembélé, vu par Monsieur le Sélectionneur, Didier Deschamps.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France maintenant avec Cyril Petit du journal Ouest France comme chaque mardi. Cyril, ces petites histoires qui en disent long avec vous aujourd'hui. Petites histoires de Noël, c'est le moment ou jamais.
Et je vous emmène, Kevin, à Eulan, dans le Calvados. Ce village situé près de Cabourg compte ordinairement 137 habitants. Mais en ce moment, il est bien plus peuplé parce que les lutins du Père Noël semblent y avoir établi leur quartier général. Pour preuve, ces nouveaux panneaux de signalisation. Traversée de lutin, sourire obligatoire, ou encore ralentir risque de danse spontanée d'un lutin, mais aussi attention, passage de Père Noël. Ainsi que le raconte Ouest France, c'est la troisième année que le maire prend un arrêté spécial Noël pour préparer au mieux la venue du barbu préféré des Français et la commune de prendre une autre décision. Les grincheux, râleurs, professionnels et toute personne opposée à l'esprit de Noël sont interdits de séjour dans la commune pendant toute la durée des festivités.
Je sais pas pourquoi vous me regardez comme ça en disant râleurs professionnels, mais bon voilà. Et cette commune n'est pas la seule à prendre des arrêtés spéciaux, Cyril.
Loin de là, d'autres maires s'amusent avec le Père Noël Lardonnais et nous apprend que celui de Perthes vient officiellement d'autoriser le survol aérien du village demain soir par son traîneau et par les rennes du Père Noël. Idem à Pontpoint dans l'Oise ou à Pont-Valin dans la Sarthe, à Besanne dans la Marne. Le maire a aussi pris un arrêté spécial pour la quatrième année. C'est l'arrêté, Kevin, numéro 2025-Noël-01 relatif à la préservation de la magie de Noël. Ce texte fixe, je cite, une obligation de brillance festive.
C'est joli.
Ainsi, toute habitation, commerce ou véhicule stationné doit arborer au minimum une guirlande lumineuse, clignotante de préférence. Précision, sinon c'est triste. Réglementation stricte aussi pour les repas de fête. Les débats politiques sont interdits entre le plat principal et le dessert sous peine de confiscation des chocolats. Alors, comment réagissent les habitants? Le maire qui rédige ces textes par plaisir a répondu à 20 minutes. La majorité de la population me connaît bien et sait que j'ai un petit peu d'humour. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques grognons, mais c'est très rare. On n'a pas de Grinch ici.
Empêcher la mauvaise humeur, certains en ont fait un objectif officiel.
Comme le maire d'Andrézieux-Boutéon dans la Loire, pendant un mois, il veut lutter contre la morosité ambiante. Alors, il impose à ses habitants et ceux qui traversent la commune d'afficher leur plus beau sourire, de porter des pulls moches de Noël, même dans l'espace public, et de souhaiter joyeux Noël à tout le monde. C'est agréable de se parler, de saluer dans la rue. C'est formidable, réagit un habitant octogénaire sur France Info. Je vais arrêter de faire la gueule, dit un autre.
Et oui, on en avait parlé sur France Inter aussi de cette commune d'Andrézieux-Boutéon. Bon, cette période, en tout cas, Cyril, donne partout l'occasion d'initiatives festives et responsables.
Et ça fait du bien, Kevin, même si on a aussi une pensée pour les élus qui doivent faire face à des vols de décorations ou guirlandes de Noël. Je vous cite deux belles idées repérées dans la presse locale. Pour terminer, le Courrier de l'Ouest d'abord. À Blou, 900 habitants près de Saumur dans le Maine-et-Loire, des habitants ont apporté les fenêtres de l'Avent. Venus de Suisse, la tradition est simple. Du 1er au 23 décembre, les villageois qui le souhaitent se retrouvent chaque soir pour un moment convivial dans une maison différente. Une fête des voisins à Noël finalement. Et puis, autre initiative, la ville de Plaisance-du-Touche en Haute-Garonne a des nouvelles décorations de Noël, écrit La Dépêche. Ni énergie électrique, ni énergie mécanique. Une partie des guirlandes et une quinzaine de décorations s'éclairent grâce aux phares des voitures qui réfléchissent leur lumière. C'est plus économique, plus écologique et finalement plus magique.
Et ça fait de la brillance festive, comme on
Exactement.
Dit dans la Marne. Merci Cyril Petit, c'est la France. Et deuxième épisode maintenant de notre série consacrée à Charles Aznavour dans C'est une chanson. Aujourd'hui, nous réécoutons l'entretien que Frédéric Pommier a mené avec la violoncelliste Astrid Cyranocian, qui avait choisi d'évoquer un titre sorti en 1972. Comme ils disent, une chanson qu'elle a beaucoup entendue dans son enfance, enfance dans la Drôme, bercée donc par les mélodies et la voix du grand Charles.
On chantait ces chansons très régulièrement et moi j'adorais quand mon père s'asseyait au piano et ouvrait une partition et jouait une chanson d'Aznavour. Également, il y en a quelques-unes qui faisaient partie de l'histoire d'amour de mes parents. Et donc mon père jouait, et puis moi aussi, enfant, j'ai appris un peu le piano à travers les partitions des chansons de Charles Aznavour. Donc il représente quelque part une omniprésence dans ma famille. Tout le monde chantait, tout le monde connaissait ses chansons. Et puis surtout, j'ai découvert à travers ses chants, la poésie qu'il pouvait y avoir et qui pouvait accompagner la musique. Donc on est sur du Charles Aznavour, mais moi qui suis musicienne classique, il y a un rapport évident, par exemple, avec les mélodies de Schubert, les mélodies de Schumann et autres. Donc vraiment, c'est ce rapport entre la poésie très importante et la musique. Donc tout se sublime.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle,
je trouve que ce qui est magique aussi avec cette chanson, comme d'autres d'ailleurs, c'est qu'il est possible d'écrire en quelques minutes une complexité de vie, même plusieurs années, même une histoire d'amour entière, du début jusqu'à la fin. Et puis c'est également un voyage dans Paris, un voyage dans cette fameuse rue Sarrazate, qui est la première rue, enfin le premier endroit que j'ai voulu visiter quand je suis arrivée à Paris. Je devais avoir 8-9 ans. Dès que j'ai mis un pied à Paris, j'ai demandé à mes parents d'aller voir cette fameuse rue Sarrazate. Et voilà, j'ai une grande tendresse pour cette chanson. Il n'y a aucune vulgarité, il n'y a aucune attaque. C'est simplement une expression d'amour et une volonté d'aimer et d'être aimé comme on est.
À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude.
Quand vous aviez 8 ans, vous compreniez tout ce que disait cette chanson ?
Je ne comprenais pas, je pense, tout le sens de cette chanson, évidemment. Je comprenais simplement que c'était un homme qui, avec beaucoup de pudeur, exprimait son amour pour un autre homme, mais que cet homme-là, qu'il aimait les femmes, voilà, donc ça, je l'avais compris. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il parle de couture, d'aider sa mère. Moi, j'ai ma grand-mère qui a toujours cousu. Donc, c'était aussi la tendresse de me dire, ah, bah, y a aussi des hommes qui peuvent coudre. Et puis, cette ambiance feutrée, créée, la nuit, la folie de la nuit. Voilà, moi, j'ai toujours aimé aussi la vie nocturne parisienne. Et elle a été évidemment liée à cette chanson qui m'a fait du bien, qui me fait du bien et qu'il est bon d'écouter.
Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme haut, comme ils disent.
La voix de Charles Aznavour, comme ils disent, le choix et les confidences donc de la violoncelliste Astrid Cyranocian avec Frédéric Pommier. Demain, ce sera Emmenez-moi avec le magistrat et romancier Eric Alphen au micro de Frédéric pour cette semaine spéciale Charles Aznavour. À suivre sur Inter, au fil de l'histoire avec Stéphanie Duncan. Et puis la Terre au carré, Mathieu Vidard reçoit le biologiste et écologue Pierre-Michel Forget, auteur de 12 mois en forêt guyanaise.